3, 2, 1. Impact, une émission proposée par l'association Limousin Écologie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Impact. Notre émission sera consacrée aujourd'hui à la permaculture. La quoi ? Oui, la permaculture. Attendez, attendez, ne vous précipitez pas sur Wikipédia. Écoutez donc l'exposé magistral que nous a fait Benjamin Brousté, formateur à cette technique injustement méconnue. Mais tout d'abord, celui que vous attendez tous, notre chroniqueur enragé, Jean-Louis Valette.
Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ?
Chères auditrices et heures, il en est parmi vous qui lisent un journal satirique paraissant le mercredi. On y trouve parfois une rubrique intitulée « Pan sur le bec » qui tape sur les doigts, sur le bec, d'un journaliste de l'équipe qui a écrit une bêtise. Eh bien, suite à ma dernière chronique de râleur chronique, j'ai reçu moi aussi des pans sur le bec, bien que je ne sois pas journaliste. En effet, j'ai dit sans sourciller, les yeux dans vos oreilles, que l'on avait obtenu du représentant de l'État qu'il n'y aurait pas de dérogation cette année pour de l'épandage aérien de pesticides au-dessus des pommiers en Limousin. Les cloches de Pâques m'ont été légitimement sonnées, car j'aurais dû dire que c'était au-dessus des châtaigniers que les dérogations ne seraient pas accordées. En pénitence, je suis condamné à boire un verre de jus de pomme du Limousin. Et oui, je sais, je ne peux pas résister, dans chacune de mes chroniques, à vous dire tout le dédain que j'ai pour ces cochonneries de Golden AOP, ce qui veut dire, je vous le rappelle, avec obligation de pesticides. Ah, les pommes du Limousin AOP, appellation d'origine protégée. Pour une Golden qui est autant originaire du Limousin que le nougat de Montélimar est originaire de la Bretagne. Au début du XXe siècle, il y avait encore plus de 350 sortes de pommes en Limousin. Aujourd'hui, 3, 4. Si je vous demande de dessiner un pommier, vous allez représenter un bel arbre, bien touffu, tout faux. Le pommier Limousin est un arbuste nain qui ne dépasse pas 15 ans. Rien à voir avec des vrais pommiers, comme on en trouve encore quelques-uns de 80 ans, et qui produisent 1,2 tonnes de pommes sans traitement. Comment ? Que dis-tu, chroniqueur radio milvachesque ? Produire des pommes en Limousin sans produit de traitement ? Eh oui, la Golden n'est pas une pomme originaire de nos contrées. Elle ne s'y adapte pas, bien que l'on ait introduit cette chose dans les années 50. Elle est donc malade, souvent malade. Il faut donc la traiter. Par ailleurs, comme pour les résineux dont je parlais ici même il y a un mois, la monoculture intensive est source de prolifération de maladies ou d'insectes spécifiques. Donc, on traite. C'est plutôt les exploitants qu'on devrait traiter, de tous les noms. Les agriculteurs sont, on le sait, les premières victimes des pesticides. À cela plusieurs raisons. L'exposition directe à ces poisons. Ils comprennent enfin et depuis peu qu'un mot se terminant par « cide » veut dire « tuer ». Les paysans le savent depuis longtemps, eux. Pas les agriculteurs, donc ils le découvrent, pour nombre d'entre eux, trop tard. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous suggère de trouver l'occasion pour regarder le film « La mort est dans le pré » d'Éric Guéret. Édifiant. On y voit notamment un jeune viticulteur, dont la santé périclite de jour en jour, continuer à faire traiter son exploitation par son ouvrier agricole. De plus en plus d'agriculteurs se rendent compte qu'ils ont été bernés par les multinationales de la chimie, pas la grande distribution, les coopératives agricoles et les élus complices au nom de l'économie. Mais, en plus de leur vie et de celle de leur famille, le système auquel ils se sont aliénés tue leurs terres. Les sols sont de plus en plus infertiles, les micro-organismes qui y vivaient sont morts. Donc non seulement leur santé est en péril, et aujourd'hui plus personne ne le conteste, leur exploitation est aussi en péril, mais plus grave encore, ils empoisonnent sciemment les riverains de leurs exploitations. Je dis bien sciemment. Lorsque les arboriculteurs de Corrèze épandent des pesticides, ils ont vu sur les étiquettes que les produits étaient dangereux. Ils se protègent donc avec des combinaisons étanches. Ils montent dans leurs tracteurs et ils pulvérisent, parfois à proximité immédiate des maisons d'habitation. Ils pulvérisent des produits qu'ils savent être dangereux à proximité d'endroits où vivent des familles qui n'ont pas, elles, de scaphandre pour se protéger. Il s'agit là d'une atteinte délibérée à la santé d'autrui. Je vous rappelle le cas de ce père de famille se plaignant auprès d'un ancien sous-préfet de Corrèze et celui-ci lui répondant que, pendant les traitements, il devait rester confiné chez lui, puis pendant 48 heures après la pulvérisation. Vous vous imaginez dans quelle terreur vivent les riverains de la pomme du Limousin ? Vous vous imaginez, vous, être sur le qui-vive et vous barricader dès que vous entendez approcher les engins près de chez vous, en période de traitement, donc près de 40 fois par an, comme les chars d'assaut d'une armée ennemie arrivant près de chez vous? Une association d'Alassac a tenté à diverses reprises de dialoguer avec les arboriculteurs. Peine perdue. Ses membres n'ont récolté que menaces et intensification des surfaces. Mais ces riverains ne sont pas idiots. Ils savent très bien que les producteurs pensent être dans un système dont ils ne peuvent pas sortir. La grande distribution leur impose des volumes toujours plus importants à des prix toujours plus bas. Mais où cela va-t-il s'arrêter? Où se trouve le bon sens paysan qui sait anticiper, préparer l'avenir? Les agriculteurs n'ont pas de bon sens paysan. Ce sont des techniciens, des exécutants, qui font ce que la grande distribution leur ordonne via les coopératives. Je parcourais récemment un site internet sur la pomme du Limousin et j'y ai lu « Les pommes destinées à l'alimentation des bébés ». J'en frémis. Ils utilisent des pesticides systémiques, c'est-à-dire qu'il ne vous sert à rien de laver la pomme, le poison est à l'intérieur. Et ils donnent ça à manger aux bébés. Et ils en font du jus. Vous avez évidemment entendu parler de cette initiative de près de 100 médecins limousins dénonçant les effets des pesticides qui sont des CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ils sont bien placés, eux, ces médecins, pour voir les dégâts de ces molécules. Mais les politiques de la région bougeront-ils? Pas sûr. Tétanisés qu'ils sont par le lobby arboricole. Et pourtant, les exploitants peuvent sortir de cet enfer. Il suffit que la région, plutôt que consacrer des sommes scandaleuses à la promotion de la pomme empoisonnée, aide les arboriculteurs à aller vers la pomme bio. La pomme empoisonnée n'a plus d'avenir, pas plus d'ailleurs que ceux qui la cultivent. La transition vers une autre arboriculture, respectueuse des hommes et de leur environnement, est possible, mais elle ne se fera pas en un jour. La région doit donc motiver les arboriculteurs à aller vers une culture pérenne, à forte valeur ajoutée, qui est demandée de plus en plus par les consommateurs, les collectivités, les cantines scolaires. Les politiques de notre région se doivent d'être à la hauteur de leurs fonctions en encourageant l'émergence de l'arboriculture de demain. Dernière chose, savez-vous que pomme du Limousin ne peut être affichée sur une étiquette que si les pommes sont issues des vergers AOP? Ce qui veut dire que personne en Limousin, cultivant d'autres pommes que les infâmes Golden, ne peut indiquer par exemple sur l'étiquette de son jus de pomme « jus de pomme du Limousin ». Remarquez, quand on sait à quoi se rapporte l'appellation « pomme du Limousin », il vaut mieux ne pas le marquer sur son étiquette de produit sain. Allez, rassurez-vous, on n'entendra plus parler de cette cochonnerie dans moins de 20 ans. Mais entre-temps, combien de drames qui auraient pu être évités?
Chez les plantes, j'ai laissé tomber. Moi qui suis né déraciné, je peux pas mieux tomber. Épinard, peinard, sous un toit de serre, et si bien dans ma peau. Me voilà blanc qu'avec pas les pieds sur terre, devenu vert, un seul pied dans du terreau. Blanc qu'avec pas les pieds sur terre, devenu vert, un seul pied dans du terreau. Plus de bruit, plus d'habits. Secrète est ma vie, Stevie, toi qui la connais par cœur. Moi qui suis né pas rassuré, jamais je vais pousser. Aussi bien ne vient sous mon toit de verre et ressemble à sa peau. Je serai brun comme une feuille après vert à l'envers, le nez vers le fond de l'eau. Brun comme une feuille après vert à l'envers,
de son, plus de chansons, plus de décors. Secrète est ma vie, Stevie, sans écho sera ma mort. Je peux pas mieux tomber. Oh, fini, fané, tout ça m'indiffère. Si je sais que bientôt je serai moi qui étais plutôt d'un signe d'air, homme de terre, et je te cueillerai bientôt. Moi qui étais plutôt d'un signe d'air, homme de terre, je te cueillerai bientôt.
Vous écoutez Impact, l'émission de Limousin Écologie sur Radio Vassivière. Passons sans plus attendre la parole à notre spécialiste de la permaculture, Benjamin Broustet.
Bien, je vais donc commencer par me présenter tout simplement. Je m'appelle Benjamin Broustet. J'ai commencé ma découverte de l'écologie et d'autres alternatives il y a quelques années. Et un jour, j'ai découvert le concept de permaculture. J'ai tout de suite été enchanté par le concept, peut-être que vous aussi, j'espère. J'ai commencé à travailler sur le sujet. Pour commencer, en fait, ce que je voulais vous dire dans cette présentation, c'est que je ne vous présente pas un dogme, ni un diktat, ni une recette miraculeuse. Simplement une boîte à outils qui est utilisable dans beaucoup de domaines. Je ne suis ni agriculteur, enfin encore pas pour l'instant, mais ça va peut-être venir, ni jardinier professionnel, etc. Donc c'est plutôt, j'ai une vision un peu plus généraliste, on va dire, des choses. Et la permaculture aussi. Voilà pour la présentation. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que la permaculture ? On va peut-être en fait plutôt commencer par qu'est-ce que ce n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de mystères un petit peu autour de la permaculture. Les gens ne savent pas trop c'est quoi. Il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça, donc on va essayer de voir ça. Dans un premier temps, ce n'est pas une pratique de feignant, puisque là aussi, il y a pas mal de choses qui tournent autour de cela dans les croyances populaires. Et ce n'est pas non plus une méthode de jardinage sur but ou dans la paille. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est alors ? Eh ben, tout simplement, c'est un nouveau paradigme, on va dire un modèle de conception du monde, de vision du monde, qui se base sur l'observation du fonctionnement de la nature. On essaye d'observer la nature, puis de l'imiter. Bon, ça, c'est pas depuis aujourd'hui qu'on fait ça, hein. Les êtres humains font ça depuis longtemps, mais on a tendance un petit peu à oublier ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, ce nouveau modèle, qui est basé sur l'observation de la nature, est basé sur des éthiques et des principes. Par incidence, donc, la permaculture est souvent de manière justifiée associée à une philosophie de vie. C'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est que c'est un outil, tout simplement, une boîte à outils, on va dire, hein, comme une clé à molette ou comme un tournevis, visant à créer des lieux de vie, des fermes, des communautés, des entreprises. N'importe quoi peut être sujet d'un design de permaculture. Socialement équitable, écologiquement durable et économiquement viable. On insiste aussi sur économiquement viable puisque ça a toute son importance dans notre société. Tous les principes, applications, méthodes et techniques aussi qui vont en découler sont fédérés sous un document qu'on appelle le design. Alors, on peut l'appeler aussi le plan d'aménagement. Mais ce n'est pas seulement un plan. Bon, donc deux temps, une philosophie de vie, un concept, un paradigme, et le design, l'outil. Les pionniers de la permaculture, les inspirateurs de ce concept, Monsieur Fukuoka, qui lui était plus axé sur l'agriculture naturelle et la philosophie du non-agir, la gestion de l'eau, écologique de l'eau sur une ferme, c'est M. Yeomans qui a travaillé sur le sujet, qui est un précurseur aussi. Hélas, ces écrits ne sont encore pas traduits en français, on espère que ça va venir, parce que c'est vraiment des écrits de grande qualité. L'agriculture permanente et les arbres, M. Smith, qui est aussi un des inspirateurs des deux fondateurs de la permaculture. L'un était le professeur, Bill Mollison, l'autre était l'élève, David Holmgren. Tout simplement, le professeur a proposé un sujet à sa classe concernant la conception de lieux durables. Et le sujet qui a été rendu par M. Holmgren a éveillé sa curiosité et ils ont commencé à travailler sur le concept qui s'est étoffé au fil des années et qui deviendra la permaculture. Alors pourquoi on fait de la permaculture ? Pourquoi on va utiliser cet outil ? Tout simplement parce qu'on vit de nombreuses crises. On a une raréfaction, une augmentation du coût des énergies fossiles due à une mauvaise utilisation de celles-ci. Donc il va falloir qu'on réfléchisse différemment demain, sachant que toute l'économie de notre pays et de l'Occident est fondée sur le pétrole et sur d'autres ressources fossiles. Les dérèglements climatiques, donc je ne parle pas de réchauffement climatique, vous savez, hein, vous connaissez ce sujet, on parle plutôt de dérèglement. Une insécurité alimentaire due à une agriculture qui n'est pas durable, basée sur la chimie, destructrice du sol et de la biodiversité, et d'une mainmise des entreprises privées sur des biens communs, tels que l'eau. Et les semences, ça c'est qu'un exemple, hein, parce qu'aujourd'hui tout est de plus en plus privatisé. Et puis une crise financière et sociale qui a des conséquences dramatiques sur le monde, qui a tendance à se globaliser aujourd'hui. Le point essentiel qu'il y a par rapport à ce genre de crise qu'on a vécu les unes après les autres ou différées, c'est qu'aujourd'hui on peut avoir une convergence des crises. Donc peut-être deux à la fois, trois à la fois, tout ensemble, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer dans les décennies à venir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de changer notre façon de fonctionner. On a les solutions pour tous ces problèmes, on les connaît déjà. Il suffit de regarder et la permaculture est une des solutions pour ce changement et cette transition vers un monde un peu plus juste et plus respectueux des humains et de la Terre. Et surtout, tout simplement pour notre survie, quoi. Hein ? Parce que peut-être que la Terre s'en remettra, mais nous, il faut déjà qu'on reste encore vivant à l'issue de toutes ces crises. Donc la première dimension, c'est la dimension philosophique de la permaculture. Le premier point que nous avons vu tout à l'heure, ce concept repose sur trois éthiques majeures. Bon, on en a des éthiques, hein, et on a des choses qui sont établies, les droits de l'homme, les choses comme ça. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir ce que propose la permaculture. Les trois éthiques, elles sont toutes simples, mais très difficiles à mettre en œuvre. Il faut essayer de s'y attacher. Prendre soin de la terre est la première éthique. Prendre soin de la terre, c'est s'attacher à prendre soin de tout ce qui est vivant, mais aussi tout ce qui est non vivant. Mais ça veut dire prendre soin d'un arbre, hein, ça veut dire prendre soin de la moindre bactérie qui se trouve dans notre sol, mais ça veut aussi dire prendre soin du minéral, de l'atmosphère, voilà, c'est des choses qui sont plus ou moins palpables aussi. Reconstituer donc et respecter le capital naturel, c'est ce qui résume un petit peu cette première éthique. La deuxième éthique, prendre soin des humains. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est vrai que de temps en temps, ces deux éthiques sont souvent ne sont pas mélangées, on va dire. Prendre soin de la Terre, c'est très important, mais prendre soin des humains aussi. Et pour qu'on prenne bien soin de la Terre, il faut aussi prendre bien soin de soi-même. On peut être généreux que si nos besoins sont d'abord comblés. Alors là aussi, il y a un petit bémol à faire, on verra après. Hein. Combler de manière raisonnable, si je puis dire, puis de sa famille, puis de ses voisins, puis des autres. Le vrai défi à relever, alors ça c'est une réflexion personnelle, hein, mais je trouve que c'est plutôt important de le dire, le vrai défi à relever c'est d'accepter sa responsabilité personnelle face aux événements. C'est la faute de Monsanto, c'est la faute de machin, c'est la faute de ci, c'est la faute de mi, mais moi, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte par rapport à ce monde, et est-ce que je crée le changement ? Rester dans la colère, c'est pas très constructif, ça nous fera pas avancer beaucoup. Enfin, la troisième éthique, partager équitablement et limiter la consommation. On est sur des grandes bases. Il n'y a pas de choses très sophistiquées. Les périodes d'abondance doivent nous encourager à partager avec les autres, partager nos surplus. Et il faut se concentrer sur les efforts de sobriété qu'il convient de faire à son niveau, plutôt que de se demander ce que les autres devraient faire. Alors on en revient à la dimension de responsabilité personnelle. Voilà la dimension philosophique de la permaculture, voilà l'éthique de la permaculture. Et déjà, quand on arrive à faire tout ça, on a fait du boulot. La permaculture, c'est aussi un outil, donc on disait tout à l'heure, hein, on a parlé, une boîte à outils. Et cet outil, c'est le plan d'aménagement, c'est le design, la science du design. Donc qu'est-ce que c'est le design ou le plan d'aménagement ? Son but, tout d'abord, c'est de vous donner des méthodes, des techniques, des stratégies pour construire un lieu ou un mode de vie durable. Alors, vos objectifs peuvent être variés, autosuffisance, création d'une ferme, d'une éco-entreprise, régénération d'un site, dépollution d'un site. Il y a énormément de sujets, comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire un design sur un petit peu n'importe quoi, même sur un pot de fleurs s'il faut. Quels sont les besoins d'un être humain, d'une famille, pour qu'elle ait un mode de vie durable ? On va s'attacher à regarder ce qui se passe au niveau de l'habitation, de la construction, de la gestion de l'eau, de la gestion du sol, etc. etc. On va passer en revue tous les éléments pour que cette famille, par exemple, si c'est le sujet de notre étude, ait un mode de vie durable. Donc c'est pour ça qu'un design est toujours unique aux besoins, souhaits, budget, tant que les gens souhaitent y investir aussi, et aussi compatible bien sûr avec le climat, le terrain, la culture. C'est important, on ne va pas faire le même design chez les musulmans que chez des gens qui sont chez des Inuits, j'en sais rien, bref, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui est adapté. À quoi ça sert ? Bah déjà, on met un plan d'action pour régénérer, préserver la nature tout en vivant si on veut de celle-ci. On peut aussi exploiter les surplus de la nature pour vivre, ça, beaucoup de gens qui le font. Ce qu'il y a, c'est que quand on a un plan, on agit dans un sens, avec un fil conducteur. Et ça nous permet, en ayant ce plan d'action à suivre, d'avoir des stratégies cohérentes en rapport avec nos objectifs. De temps en temps, on a tendance à s'éparpiller, à procrastiner, etc., etc. Avoir un plan d'action à suivre, ça nous permet de gagner du temps, de gagner de l'argent. Donc c'est un fil conducteur, c'est une organisation qui est importante. Alors la permaculture, vraiment, c'est quand on met des systèmes en place, on essaye de s'inspirer de la nature, donc ce sont des systèmes, on essaye de boucler les systèmes que l'on met en place, donc c'est durable, c'est l'essence même du concept. Donc les enfants, les petits-enfants en profiteront. C'est revenir un petit peu au bon sens d'autrefois, où nos grands-parents mettaient en place des choses pour que leurs petits-enfants, leurs enfants en profitent, etc. Aujourd'hui, on pense à sa propre génération et la suite, on l'oublie un petit peu. On va tendre vers l'autosuffisance, on sera moins dépendant d'achats de produits, d'énergie, ce qui peut nous permettre de passer moins de temps à gagner notre vie et à l'utiliser pour faire autre chose. C'est pas mal, pour s'occuper de ses enfants ou autres. On va produire des aliments sains qui vous donneront un corps en meilleure santé et on passera peut-être un peu moins de temps à la pharmacie. Celle-ci peut même être le jardin. On sera plus résilient face à un avenir incertain au niveau de l'énergie et de la sécurité alimentaire notamment. On voit que dans les supermarchés aujourd'hui on a très peu d'autonomie alimentaire et qu'au niveau de la tempête on s'est aperçu que qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'énergie pendant un certain moment, voire même une période assez longue. Est-ce qu'on est résilient ? Est-ce qu'on est capable de résister aux chocs ou aux impondérables qui peuvent arriver ? Le concept de design de permaculture nous permet de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on le verra tout à l'heure, donc d'avoir toujours une roue de secours et de pouvoir être plus résilient. Et enfin, si on a des économies, donc de l'énergie stockée, puisque c'est ça, c'est pas autre chose, qui sont plutôt en fragilité au vu de la situation financière mondiale actuelle et à venir, et qui sert on ne sait quelle activité à des endroits inconnus. On sait que le Crédit Agricole a un bon financeur d'Areva, donc c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Le placement le plus rentable, le plus durable et sur des générations, c'est bien d'investir dans la création et la régénération de ressources naturelles, plutôt que dans des trusts qui les surexploitent. Alors, les grands principes de permaculture, pour entrer un peu plus dans le concret, c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre ce design. Le premier, c'est que chaque élément est positionné en relation avec un ou plusieurs autres pour qu'ils s'assistent mutuellement. Alors, les jardiniers connaissent bien ça. Au niveau de l'association des plantes, on a des bienfaits en associant certaines plantes. Et bien, au niveau des éléments qu'on place sur notre lieu de vie, c'est la même chose. L'exemple tout simple, c'est le compost à côté du jardin. On va pas aller mettre le compost à l'autre bout du jardin pour travailler sa matière. Un exemple un petit peu plus complexe, c'est par exemple la serre qui peut être accolée au poulailler. Les poules nous fournissent des œufs, mais elles ne nous fournissent pas que des œufs. Elles nous fournissent aussi du fumier, elles nous fournissent aussi de la chaleur. Et la chaleur nocturne, la serre, elle aime bien, ça va la faire profiter un petit peu. Inversement, la serre aussi profite aux poules. Donc là, on a une petite synergie entre les deux. Et on cherche à travailler ces synergies-là dans le design de permaculture. Ensuite, le deuxième principe, dans un système qui se veut stable et résilient, chaque élément se doit de remplir le plus de fonctions possibles. Nous devons donc étudier quels sont les besoins, les productions et les caractéristiques de cet élément. Donc les éléments, les besoins qui vont être utiles à cet élément seront produits sur le site bien sûr, hein, autant que possible, et au plus près de celui-ci. Et ces productions seront aussi utilisées sur le site. Exemple, donc on parlait de la poule, ses besoins, l'abri, l'eau, la nourriture, la poussière, le sable, l'air frais, d'autres poules ont besoin de socialiser aussi, les produits de la viande, du fumier, des œufs, du méthane, des plumes, du CO2. Mais ces comportements sont aussi intéressants à utiliser puisqu'elles griffent et elles grattent. Et ça, c'est un comportement qu'on aime bien utiliser chez les permaculteurs. Elles volent, elles se battent, elles chantent. Là, c'est plutôt pour le fait de la contenir. Et puis donc, on a les caractéristiques intrinsèques ensuite de l'élément qui sont la race, la couleur, la tolérance au climat, le comportement spécifique à la race. Donc tout ça devra être pris en compte quand on va choisir notre poule sur le site. Donc les besoins basiques, eau, nourriture, énergie, doivent être produits par au moins deux moyens, de manière à être résilient. Ça conforte le célèbre adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et encore une fois, la diversité est égale à la stabilité. Plus on a de diversité dans un système, plus il est stable. Donc plus il faut apporter un maximum de diversité dans tout ce que l'on fait. C'est valable pour tout, hein. Je sais pas, un exemple, les chiens de race par exemple, si on n'apporte pas un peu de mixité dans la race, et bien à un moment donné, on va avoir des dégénérescences, on va avoir des choses comme ça, on va avoir des problèmes de santé, c'est les chiens pure race par exemple. Donc la production d'eau chaude, dans un deuxième exemple, sur place, peut être issue par un chauffe-eau solaire, mais aussi par un chauffe-eau bois. Quand il y en a un qui ne fonctionne pas, ben on prend l'autre. Ça peut être valable pour les alimentations en eau potable, ça peut être valable pour énormément de choses. Alors ensuite, planifier la dépense d'énergie, ça c'est quelque chose sur lequel on s'attache beaucoup. Prenons un exemple, on va au poulailler deux fois par jour, une fois pour ouvrir, une fois pour fermer, une fois pour aller chercher les œufs. Et si le poulailler est à 100 mètres de notre maison, ben on va y aller 700 fois dans l'année et on va faire 70 km par an. S'il est à 30 mètres, ben on va en faire 21 seulement. Ça paraît tout con, ça aussi. Quand on parle d'y aller à pied, c'est pas un problème pour les gens qui veulent se dépenser. Mais quand on commence à parler d'énergie et d'économique, proprement dit, quand on commence à réfléchir sur la consommation d'un tracteur ou de je ne sais quoi, ben là, c'est peut-être un peu plus intéressant. La clé de la dépense en énergie, hein, qui peut être aussi assimilée à une planification économique efficace, ben ouais, bien sûr, parce que c'est aussi des économies d'argent, hein, si on planifie correctement. Eh bien, c'est le placement des plantes, animaux, structures aussi, bien sûr, hein, maisons et autres, tout ce qui peut nous être utile, en zone et en secteur. Alors, les zones et les secteurs, la zone 0, la première zone, c'est la zone de l'habitat. La zone 1, c'est la zone la plus proche de l'habitat, donc celle qui est vraiment à quelques dizaines de mètres de celui-ci, et qui demande beaucoup de soins et des visites régulières. Hein, donc le poulailler en fait partie. On a vu qu'on y allait à peu près 700 fois. On ne va pas placer le poulailler dans la zone 5. On va le placer plutôt dans la zone 1. Donc on y trouve les plantes aromatiques. On dit toujours que le bon cuisinier a une vue de sa cuisine sur ses plantes aromatiques. Il peut les prendre au passage en rentrant, etc. Ou les plantes annuelles. La zone 2, c'est la zone des vergers, des petits fruits, et des éléments qui demandent un petit peu moins d'attention, mais quand même une fréquence dans le soin ou dans les récoltes assez régulière. La zone 3, c'est la zone des grandes cultures. Et la zone 4, c'est la zone de forêt utilisée pour ses ressources, bois d'œuvre, bois de chauffe, artisanat, etc. La zone 5, elle est laissée à l'espace sauvage et à l'observation. Parce que pour pouvoir s'inspirer de la nature, ben, il faut pouvoir conserver le modèle. si on le laisse pas vivre, ben, on peut plus avoir notre modèle. Et donc on conserve une zone sauvage, tout simplement, ben, pour pouvoir observer ce qui se passe dans notre environnement et sous notre climat et dans notre région. Utiliser les ressources biologiques, c'est quelque chose aussi qui est assez important, même très important. Donc la nature et ses habitants, bah, ce sont des milliers de travailleurs à notre service 24 heures sur 24, hein, toute l'année et gratuitement, et ils le font avec grand plaisir. Donc il ne faut pas se priver de les faire travailler. Les plantes et les animaux nous fourniront tout ce qu'on a besoin, hein, si peu qu'on le souhaite, carburant, fertilisant, contrôle des insectes, des herbes indésirables, recyclage des nutriments, etc. et bien d'autres fonctions. Il y a un exemple qui est très connu en permaculture, on utilise beaucoup les coureurs indiens, les races de canards, pour les emmener dans le potager, pour manger les limaces qui vont les nourrir tout simplement, puis nous arranger aussi, puisque on a ces petites bébêtes en moins. On a plein d'autres systèmes, hein, les cochons aussi ont une capacité à fouiller le sol et donc à le préparer aussi. Les poules, on en a parlé tout à l'heure, qui grattent le sol. Quand on fait un poulailler, vous avez vu, au bout de quelques temps, c'est très rapide, hein, tout est dégagé. Et puis, il suffit qu'on bouge le poulailler et puis on a quelque chose qui est tout de suite utilisable pour s'amuser, hein, sans avoir à travailler auparavant. Donc ça, c'est une des utilisations de la poule, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est le tracteur à poules. Donc les poules grattent le sol, le fertilisent. Et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire ce que l'on a à faire derrière. Hein. Alors on ne fait pas ça avant de faire du maïs, hein, évidemment. Hein, c'est pas le but. Hein. Mais ça peut être très utile dans certaines préparations. Alors avant de planter un jardin forêt, par exemple, c'est ce que l'on fait souvent. Le permaculteur est avant tout un concepteur de système visant à optimiser, à conserver, à stocker et à amplifier l'énergie avant qu'elle ne disparaisse. Parce que le flux d'énergie, c'est ça. Et il traverse un système et puis ensuite il disparaît. Donc nous, notre rôle, c'est d'essayer d'optimiser ça, de voir comment on va pouvoir créer des cycles, hein, d'énergie, créer des systèmes principalement d'origine solaire et hydraulique. Ça, on peut imaginer par exemple le ruissellement d'eau sur une pente de terrain, tout simplement, c'est de l'énergie. Hein. Comment on va faire pour éventuellement développer tout ça? Tout simplement créer un réseau de baissières et de mares. Donc on capte cette eau de ruissellement, on l'amène vers des points d'eau, hein, on cultive dans ce point d'eau. On amène le ruissellement suivant ou les trop-pleins de la première mare vers la deuxième, on cultive, on développe. Et le flux d'énergie, avant qu'il s'en aille, il est exploité, optimisé au maximum. Bon, autre exemple qu'on connaît aussi, les déchets de légumes qui vont au compost, qui sont transformés par les micro-organismes du sol en une nouvelle nourriture qui sera de nouveau utilisée pour refaire pousser de nouveaux légumes, etc. La boucle est bouclée, l'énergie est conservée, si on veut, hein, parce que c'est pas... on essaye tout du moins de créer un cycle. Alors, c'est assez original à la permaculture, privilégier les systèmes intensifs de petite taille. Pourquoi on va privilégier les systèmes intensifs de petite taille? Pour essayer de laisser un maximum de place à la nature. Et on va voir comment. À l'inverse des systèmes actuels décentralisés, consommateurs de transport, d'espace, d'énergie, les systèmes permacoles sont conçus sur des petites échelles, pour des outils à main ou peu consommateurs d'énergie. Petits tracteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, voire animaux de trait, si on a suffisamment d'espace pour pouvoir les nourrir. On travaille donc à très petite échelle, voire petite, mais de manière très intensive et totalement contrôlée. C'est-à-dire qu'on peut avoir 25 hectares de je ne sais quoi, si on a un contrôle que basique dessus, on va perdre une certaine quantité de rendement. Alors que si on a peut-être une surface un peu moins grande, mais qu'on a un contrôle accru sur cette surface, on va pouvoir obtenir plus. Exemple, un jardin, le jardin où j'ai été formé, qui fait 400 mètres carrés et qui est viable pour une dizaine de personnes. Alors pour faire des systèmes intensifs, on utilise quelques techniques qui sont la culture intensive dans l'espace et dans le temps, par exemple. Alors comment c'est possible sans appauvrir les sols ou sans acheter d'engrais? Toujours dans l'observation et l'imitation des modèles naturels. Le modèle naturel qu'on a chez nous ici, ce qu'on appelle le stade climax de l'évolution du système écologique, de la succession écologique, c'est la forêt. Dans les steppes, ça va être le stade herbacé, dans d'autres régions, ça va être d'autres stades, mais chez nous, c'est la forêt. Donc, tout simplement, au lieu de dépenser de l'énergie sans arrêt à essayer de maintenir les cultures au stade herbacé, on va laisser la nature se faire, mais on va limiter et remplacer les espèces que la nature nous fournit par des espèces nourricières. La forêt, elle n'a pas besoin de nous pour entretenir sa propre fertilité. Elle le fait d'elle-même. Donc il n'y a pas de raison. Pourtant, c'est un système très, très dense en termes de rendement en biomasse. Donc là, vous avez les grands arbres, tout simplement qui peuvent être des grands fruitiers. Vous avez ensuite des arbustes et des espèces naines qui sont en dessous. Vous avez ensuite, en dessous, encore une fois, des baies et des petits arbustes. Enfin, on a des herbes comestibles et médicinales au sol. Et puis, on va les chercher dans d'autres étages. On va les chercher encore, optimiser encore plus. Et donc, on va utiliser des couvre-sols. Donc, qui peuvent être des fraises, des bois, qui peuvent être... c'est présent naturellement dans la forêt, ça. On peut utiliser aussi d'autres types de plantes médicinales. Elles sont quasiment toutes intéressantes en couvre-sol. Et donc, on a aussi les lianes que l'on peut utiliser. Les lianes qui sont telles que le kiwi, par exemple, qui peuvent monter sur une tige d'arbre. Ainsi que les légumes racines. J'ai oublié les légumes racines. Donc, on a 7 étages de culture sur un espace. Alors, on est dans la diversité. On ne peut pas être mieux au niveau diversité. Et... on va avoir des espèces qui vont prendre des nutriments à des étages différents aussi dans le sol. Certaines vont remonter des nutriments ou de l'eau à d'autres espèces qui sont à côté. Et on a un système qui fonctionne très bien, puisque moi j'ai vu des systèmes qui fonctionnaient comme ça, qui ont 15, 20, 30 ans. Et il y en a un pas loin dans le Limousin, qui est ultra productif. Donc c'est une autre culture que la monoculture basique que l'on connaît, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est très très intéressant aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le jardin forêt. Évidemment, on ne plante pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Il y a toute une technique pour créer ce genre de système. Hein. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas en plantant des arbres les uns à côté des autres que ça fonctionne. Il y a une gestion de la lumière très importante à faire. Enfin bon, il y a du travail quand même. Hein. Alors, il y a de nombreuses encore techniques qui peuvent être retrouvées dans des ouvrages de permaculture que vous pouvez noter si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc les deux ouvrages de référence, ce sont Permaculture 1 et 2 de Bill Mollison. Ils se trouvent sur un site, vous taperez sur Google Ressources Permaculture et vous pourrez trouver tous ces ouvrages. Jardiner autrement, alors qui est beaucoup plus focalisé sur le jardin, de Margit Roig. Puis ceux qui sont intéressés par le jardin forêt, le principe dont on a parlé, peuvent consulter le livre de Patrick Whitfield qui est très, très bien fait. Alors c'est un pavé, hein. On en apprend aussi beaucoup sur d'autres systèmes. La révolution d'un brin de paille, évidemment, de M. Fukuoka, ça aussi c'est une lecture extraordinaire. Et merci de votre attention en tout cas.
Children of tomorrow. storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Voilà, Benjamin ayant éveillé notre curiosité, nous sommes donc allés voir ce fameux jardin permacole en Creuse et nous y avons rencontré Maria Spering qui nous a reçus avec la courtoisie légendaire des dames anglaises. L'entretien qu'elle nous a si gentiment accordé sera diffusé dans une prochaine émission, mais nous ne résistons pas au plaisir de vous en passer un extrait.
Pour quelqu'un qui veut découvrir la permaculture, Il y a, sur la philosophie de l'approche de la culture, c'est important. Et puis, il y a le côté, disons, pratique pour le découvrir. Alors, aller voir sur le terrain, bien sûr, des gens qui pratiquent la permaculture. Et puis, pour expérimenter soi-même, est-ce qu'il y a des recettes applicables simplement, peut-être de faire des buttes, disons, pour cultiver sur des buttes. Est-ce que c'est d'associer certaines plantes entre elles? C'est un peu une question de technique que je vous pose. Le jardinage traditionnel, on voit bien, on passe beaucoup d'ardeur à bêcher, retourner la terre, sarcler, biner, qui passe beaucoup de travail là-dessus. Et quand on leur dit qu'on peut produire en aidant les plantes à se produire elles-mêmes et la terre à produire elle-même sans faire tout ce travail supplémentaire, on rencontre des regards incrédules.
Oui, je trouve les journées de découverte très utiles pour voir les choses en pratique. Je risque toujours d'être un peu philosophique parce que si on comprend le pourquoi, pourquoi la terre dans la nature est rarement tournée, sauf par les vers de terre. Ouais. Et comment on a cette tendance dans l'agriculture d'exposer la terre, de tourner la terre et de laisser nue. Dans la nature, c'est pas fait comme ça. On a basé notre agriculture aujourd'hui sur les plantes annuelles. Qui comprend le rôle des plantes annuelles dans la nature, vraiment? On fait des choses sans poser des questions. Et on travaille contre les cycles de la nature. Et ça impose beaucoup plus d'efforts pour maintenir la situation. Pour moi, permaculture, c'est observer où est l'énergie et comment je me place là-dedans. Pourquoi est-ce que j'ai plus besoin de ça que ça? Souvent, les gens veulent une recette comment on peut cultiver des carottes. Si c'est simplement ça, là, il n'y a pas besoin de moi pour répondre. Dans un design, et design en permaculture, des fois, il y a des faux amis en traduction de l'anglais. Design, c'est l'emplacement des choses qui sont en relation l'un avec l'autre. Ce n'est pas un look, ce n'est pas pour être à la mode. Et design à la mode, c'est souvent très inutile et pas du tout pratique. Donc le design, c'est comment on place les choses en lien l'un avec l'autre. C'est en lien avec les ressources de la personne qui va travailler dedans, qui va vivre dedans. C'est en lien avec le vent, le soleil, où tombe la pluie, etc., la terre qu'on a, ou les microclimats, le panorama, les voisins ou des enfants. Tout ça, on essaie d'intégrer tout ça pour faire une démarche qui va être durable et facile à entretenir. Donc ça peut être à la fin que la culture des carottes ne fait pas partie de ce design. Ça peut être que la culture de carottes est optimale dans ce design. Et pour ça, parler sans un exemple concret devant moi, j'ai tendance de répondre un peu plus vague, si vous voulez. Et c'est toute une approche, ce n'est pas juste la méthode. Et dans cette approche, c'est l'éthique, c'est notre responsabilité de prendre soin de la terre. La terre et tous ses organismes, prend soin des êtres humains. Ça peut être facilement oublié, au cœur de permaculture, c'est cette éthique. Et dans cette éthique, c'est question philosophique, comment vivre pour être bien, pour être heureuse. Parce que je pense que la majorité des gens veulent être heureux quand même.
Juste au bout de mon nuage, car ça me fait voir plus beau. J'ai viens d'essuyer l'orage et la tempête, saute sur la calmie. Je me pose sur tes cils pour que tu me vois mieux peut-être pendant l'éclaircie. J'ai déjà accroché mon cœur ailleurs, pourtant tu veux me faire croire. Si je décrochais mon cœur d'ailleurs pour toi, ça me déplairait peut-être pas. Ineffable. J'ai 4D et le chapiteau fait la gueule, les rouges à gagner. J'ai les crayons. Dans un cri de couleur, j'ai plus peur des noirs. Mes yeux sont faits pour sentir et toucher, plus que pour y voir. Hey! J'ai accroché mon cœur ailleurs, et tu veux me faire croire. Si je décrochais mon cœur d'ailleurs pour toi. Mon cœur d'ailleurs pour toi.
Et pour finir, une invitation qu'on ne refuse pas, celle de nos amis de l'ADAES à lever les yeux vers les étoiles.
Samedi 13 avril, 7e fête des étoiles, organisée par l'association ADAES, en partenariat avec l'Office de tourisme de Briance-Rosel et l'EPSIS, à Pierre-Buffière, sur le site de Chabana. Prendre l'autoroute A20, sortie 40, et vous trouverez le site Chabana à quelques encablures. Cette fête fonctionne de 14h à 19h le samedi après-midi et reprend de 20h30 à minuit. L'accès est gratuit à tout public. Dans l'après-midi, vous pourrez participer à des séances de planétarium, assister à des conférences, regarder des expositions sur le soleil. Il y aura des ateliers pour les petits et les grands, des observations du soleil et le soir, les observations du ciel nocturne avec de multiples instruments. En cas de mauvais temps, animation pour le soir, cadran solaire géant et une buvette astro. On vous attend tous samedi 13 avril dans l'après-midi.
C'était Impact, l'émission proposée par l'association Limousin Écologie. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et nous espérons vous retrouver prochainement sur les ondes de Radio Vassivière. Au revoir.